Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogez les rues d'Anguin, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, si les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du tout de Villeneuve. La rage, ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui est mon sujet, tel qu'un maghrébin, je t'ai blousé chez mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse vous de la preuve. La rage. La rage.
La rage. Chers auditeurs de La Rage Dedans, nous voilà de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et le grand honneur de recevoir un éditeur indépendant. Est engagé, c'est moi qui l'affirme. Lui, il se dit plutôt éditeur indépendant. Thomas Bou, bonjour.
Bonjour Mariama.
Alors, tu es le fondateur de la maison d'édition Rue de l'Échiquier, fondée en 2008.
Tout à fait, c'est ça.
Alors, c'est une maison d'édition indépendante et engagée dans le domaine des sciences humaines et sociales.
C'est ça, avec une éditoriale très axée sur l'écologie. Qu'on aborde dans un sens assez large, c'est-à-dire pas simplement pour les sujets environnementaux qu'on connaît aujourd'hui tous et toutes, le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, mais aussi pour les enjeux sociaux et politiques qui sont liés. Donc on peut aborder des questions aussi différentes que les inégalités femmes-hommes, le pouvoir de certaines multinationales, tu es bien placé pour le savoir,
oui.
Le racisme, les questions de mobilité, d'organisation urbaine, d'organisation démocratique. Donc voilà, on va dire un vaste champ thématique.
Alors, tu as fait partie, mais on l'abordera dans deuxième partie de l'émission, du collectif Débordés Bolloré.
Absolument.
Bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton parcours avant qui t'a amené à fonder une maison d'édition aussi indépendante ?
Non, moi je suis en fait éditeur depuis 30 ans. J'ai pratiqué ce métier d'abord dans des grands groupes où je me suis rendu compte que ma latitude éditoriale était quand même très resserrée, c'est le moins que l'on puisse dire, par le fait que le contrôle de gestion est souvent tout puissant dans ces grandes structures et que la liberté d'éditer des livres qu'on désire est très resserré. Donc, après quelques années, en même temps d'apprentissage utile pour la pratique de mon métier, j'ai décidé effectivement de lancer avec une associée à l'époque, une maison d'édition indépendante qui effectivement s'appelle Rue de l'Échiquier. Parce que nous avons créé cette maison d'édition dans le 10e arrondissement, au métro Bonne Nouvelle, c'est un signe, et parce qu'on aimait bien, en fait, donc effectivement, ce nom, Rue de l'Échiquier, qui est à la fois une promesse de rencontre, d'ouverture, de combat aussi, de lutte, de réflexion. Et bon, depuis, on a déménagé de la rue de l'Échiquier, mais on a conservé ce nom que je continue de bien aimer.
Alors, il y a dans ton catalogue des ouvrages de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux expliquer ou présenter quelques-uns plus précisément, s'il te plaît, Thomas ?
C'est vraiment dans l'ADN de la maison, l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, nous bénéficions depuis quelques années de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui reconnaît donc le fait que certaines entreprises voient leur chiffre d'affaires impacté par leur engagement environnemental ou social. L'économie sociale et solidaire, c'est une découverte que je fais durant les années 2000 par le fait du parcours d'amis d'enfance qui s'engagent eux-mêmes dans des entreprises dont l'objectif n'est pas simplement le profit et la rentabilité, mais le soin apporté aux hommes et aux femmes, au territoire. Et à l'occasion d'un voyage en famille au Burkina Faso, je tombe en particulier sur le travail d'une structure bien connue dans l'insertion par l'activité économique qui s'appelle le Relais et qui, par une activité de recyclage de textiles usagés sur place, réussissait à financer la relance d'activités artisanales traditionnelles comme une teinturerie, une fabrique de spiruline, une miellerie. Et ce, au bénéfice effectivement d'une population locale, souvent très désœuvrée. Mmh. C'est un pays très enclavé et très pauvre, le Burkina Faso. Et là, en fait, un retour à l'emploi de centaines de personnes dont la vie change immédiatement. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut alphabétiser ses enfants, se nourrir correctement, se loger correctement et voilà.
Se soigner.
Se soigner, bien sûr. Et j'ai été assez épaté par ce que je voyais sur place. Et j'ai eu envie, au retour de ce voyage, de rencontrer la personne qui était à l'origine de cette structure, Pierre Duponchel en l'espèce. Et de là est née, en fait, la première envie de collection que j'ai appelée Conversation solidaire et qui consistait en effet à des entretiens avec des figures emblématiques à l'époque, hein, je parle de la fin des années 2000, de ce grand champ qu'est l'économie sociale et solidaire, 10% du PIB, 14% de l'emploi dans le secteur privé. Donc ça n'est pas rien et il me semblait, alors qu'on sortait à peine de la crise économique 2008-2009, de mettre en avant justement ces initiatives via des incarnations très fortes, des personnalités très fortes. Je pense à Jean-Guy Henkel qui a créé le réseau des Jardins de Cocagne. J'ai évoqué Pierre Duponchel, mais il y a eu aussi Marianne Ovac qui a importé le principe du microcrédit en France. Donc de leur accorder effectivement une place dans le paysage éditorial. Et on a effectivement bénéficié d'une grande curiosité à l'époque, parce que tout le monde voyait bien que notre système économique nous avait mis dans le mur, qu'il fallait inventer autre chose. Et les paroles, les pratiques, les expériences, les expérimentations de ces personnes-là ont suscité beaucoup d'intérêt à l'époque.
Et beaucoup d'espoir.
Et d'espoir. Alors, c'est vrai que l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, est en difficulté, malheureusement, et c'est compliqué dans un système ultralibéral de maintenir un cap comme celui-là. Mais c'est vrai que ça a été, pour l'échiquier, en tout cas, un premier jalon, une première étape. Et à partir du moment où, finalement, la maison existait, on l'a ensuite enrichi d'autres collections pour continuer d'explorer des terrains qui nous semblaient vraiment intéressants.
Alors, les autres collections, je pense à Initial DD.
Initial DD, alors c'est effectivement une petite référence à la fameuse chanson de Serge Gainsbourg, Initial BB. DD, c'était pour développement durable, qui est un oxymore, et à l'époque, on n'avait pas encore pris tout à fait conscience du caractère mensonger de cet intitulé. Mais effectivement, Initial DD, c'est une collection qui propose de grandes traductions. Donc l'idée, c'était de remonter à l'origine en particulier des humanités écologiques et d'un certain nombre de livres fondateurs. Je pense en particulier à Biomimétisme de Janine Bénus sur l'intelligence de la nature, qui est le premier titre qu'on a publié dans cette collection, qui est sorti en 2011. Je pense évidemment, et peut-être surtout, au rapport Meadows, The Limits to Growth, les limites à la croissance, qu'on a publié en 2012 et qui reste ce qu'on appelle dans notre jargon un long seller, c'est-à-dire un livre qui continue de sortir, de se vendre année après année. On vient de fêter le cinquantenaire de ce rapport de recherche écrit sous la houlette de Denis Meadows et rédigé par sa femme, Donella Meadows, mm-hmm. qui est le premier travail de recherche commandé par le Club de Rome, qui établit qu'une croissance exponentielle dans un monde fini comme le nôtre n'est tout simplement pas possible physiquement. Et ça reste évidemment un ouvrage fondamental pour qui s'intéresse à l'écologie et à l'écologie politique en particulier.
Alors Meadows, il a publié un autre livre, tu as publié un autre livre de lui avec sa préface.
Alors un autre livre d'elle en fait.
Oui, d'elle, pardon.
Donella Meadows, qui était effectivement, on le sait assez peu, la véritable âme de ce travail de recherche et la principale rédactrice, encore une fois, des limites à la croissance. Dans les années qui ont suivi, en fait, la publication en 72, Donella a vraiment pris son bâton de pèlerin pour édifier, enseigner la méthode systémique qui avait permis effectivement de produire ce fameux rapport. Et après son décès en 2001, une de ses amies éditrices a collationné en quelque sorte dans un livre qui s'appelle « Pour une pensée systémique », l'ensemble des acquis théoriques qui avaient permis d'établir effectivement ce premier travail de recherche, mais qui est utile dans plein d'autres champs. Aujourd'hui en France, on est un peu en retard sur cette question des approches systémiques. Il y a eu quelques grands porteurs de cette idée que pour résoudre les grands problèmes qui se posent à nous, on ne peut plus réfléchir en silo, apporter une réponse simple à une question simple, mais qu'il faut accepter l'idée que le monde est complexe, que les enjeux sont complexes et qui nécessitent d'être considérés dans leur globalité. Je pense qu'Edgar Morin, avec sa pensée complexe, a été évidemment un des porteurs d'eau sur ce sujet-là. Mais en fait, Donella est vraiment à l'origine justement d'une pensée très riche sur cette question. Et on a effectivement publié dans Initial DD pour une pensée systémique au début de l'année 2013. Il est désormais disponible dans notre collection de poches.
Éco-poche.
Voilà, l'éco-poche depuis le début de cette année 2015.
Alors, écoute.
2025, pardon.
2025, oui.
Je vous ai rajeuni de 10 ans.
Merci, c'est gentil. J'en ai besoin. Écotopia.
Alors là, tu nous fais basculer dans un autre domaine qui est celui de la fiction, mais pourquoi pas.
Oui.
C'est vrai que...
Avant de revenir à quelque chose de dur, les matières fossiles. Mais ça, je sais pourquoi.
D'accord. En fait, c'est vrai que presque 10 ans après la création de la maison, on s'est rendu compte que sur ces sujets, parfois un peu lourds, certains lecteurs et lectrices avaient du mal avec des essais, on va dire, un peu denses, parfois très épais, et que le récit, le fait d'utiliser le roman en particulier pour faire passer un certain nombre de messages, sans pour autant faire des livres à messages, pouvait avoir son rôle. S'adresser finalement à l'hémisphère droit de nos lecteurs et lectrices, dans l'idée que émouvoir, raconter une histoire, pouvait aussi permettre de porter et de véhiculer un certain nombre d'idées. Et c'est pourquoi, avec Mathieu Riva, qui dirige le domaine fiction, on a eu l'idée, effectivement, de republier en 2018 Écotopia d'Ernest Kallenbach, qui est un livre aujourd'hui culte, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, et qui était passé totalement inaperçu, je dois dire, en 1978, lors de sa première traduction en français, sans doute parce que son propos était encore finalement sous les radars.
Avant-gardiste.
Voilà, très avant-gardiste. En fait, Ernest Kallenbach, dans Écotopia, il imagine ce que pourrait être une société véritablement écologique dans tous les champs de l'activité humaine, mais aussi dans les relations entre êtres humains. En fait, son propos est suivant, c'est un roman de science-fiction. Il imagine que 3 États de l'Ouest américain, la Californie, l'Oregon et l'État de Washington, décident de faire sécession des États-Unis pour justement s'inscrire en faux avec une vision ultra-libérale de ce que doit être le système économique. Et 20 ans après cette sécession, il y a un journaliste new-yorkais, très new-yorkais dans ses habitudes, dans ses comportements, qui est autorisé à mener à bien un long reportage en Écotopia. Et il va donc tenir pour son journal le Time Post, la chronique de ce qu'il observe. Et en même temps, il va tenir un journal intime dans lequel on va voir finalement à quel point ce qu'il observe en Écotopia vient le bousculer intimement. Et donc, c'est un roman qu'on a effectivement demandé à Brice Mathieusson, grand traducteur de l'anglais, de retraduire. Ça a été un très gros succès pour Rue L'Échiquier. Plus de 10 000 exemplaires vendus en grand format. On a cédé les droits de poche à Folio, qui en est aujourd'hui à 40 000 exemplaires diffusés. Et je t'annonce une bonne nouvelle. On le ressort dans une version collector qui paraîtra le jour même de la diffusion de cette émission, le 7 novembre, dans une version justement reliée cartonnée, avec un joli marquage à chaud et une fabrication. On attache toujours beaucoup d'importance à la beauté de nos livres chez Rue de l'Échiquier. Et effectivement, ce livre méritait un écrin un peu particulier, ce qu'on s'est employé à faire.
Alors, La Tour Totale, avec Total, et un titre choc, De quoi Total est-elle la somme, 2017, Alain Deneau. Que dire de plus? Trois ans de sa vie.
Tu me lances sur des sujets extrêmement différents. Mais
c'est ça d'être indépendant.
Mais écoute,
c'est pour montrer la variété du catalogue.
Bien sûr. Écoute, Alain Deneau, que beaucoup, je pense, d'auditeurs et d'auditrices connaissent grâce à toi. C'est un philosophe québécois qui a beaucoup travaillé effectivement sur les questions de criminalité économique, qui a mené à bien sa thèse de philosophie avec Jacques Rancière, qui a été enseignant au sein du Collège international de philosophie, qui est aujourd'hui en poste à l'université de Moncton, au Canada. En fait, c'est un ami à l'origine. On s'est connus durant nos années d'études. J'ai créé et cofondé Rue L'Échiquier, Alain avait déjà une belle carrière d'auteur derrière lui.
Notamment avec son succès Paul Martin et compagnie.
Et puis, on peut le dire, l'aventure extrêmement périlleuse qu'a été la publication de Noir Canada.
Ah oui.
Qui lui a valu...
un procès Bayon.
Une procédure Bayon de la part de l'entreprise minière dont il dénonçait les pratiques dans ce livre, qui a failli conduire effectivement à la faillite de son éditeur québécois, Éco-Société, que je salue pour son courage.
Oui.
Et en fait, on s'était dit qu'évidemment, un jour, on ferait sans doute des livres ensemble. Quand Rue L'Échiquier a émergé, Alain m'a proposé justement de poursuivre sa réflexion sur les pratiques d'un certain nombre d'entreprises canadiennes dans le champ minier. Et nous avons publié en 2013 un livre qu'il a co-signé avec William Sacher.
Et Delphine Abadi.
Qui s'appelle en fait « Paradis sous terre ».
Qui est épuisé, il faudrait peut-être le réimprimer.
Alors, Paradis sous terre, on en a encore quelques exemplaires, si des auditeurs sont intéressés. Il montre en fait à quel point aujourd'hui le Canada est devenu une plaque tournante, une plateforme pour cette industrie extrêmement écocidaire. Et en fait, dans la foulée de cette première publication, Alain m'a proposé de coéditer avec Éco-Société un livre sur les pratiques d'une multinationale qu'on connaît bien en France, donc Total. On a décidé effectivement de l'accompagner dans ce grand projet. Ou cinq années de travail.
Et trois ans de recherche pour ceux qui se sont occupés avec lui.
Beaucoup de recherches, évidemment, documentaires, dont tu as été tout à fait partie prenante, je pense qu'on peut le dire, Mariama.
Merci.
Et donc, ce livre, effectivement, De quoi Total est-elle la somme, a été publié par Rue L'Échiquier et Éco-Société au début de l'année 2017. Il est également désormais disponible avec un avant-propos d'Alain, actualisé dans notre collection L'Éco-Poche.
Alors, il y a la version brochée qui est un peu plus chère et L'Éco-Poche qui est plus facilement vendable aux jeunes qui s'intéressent à ce que fait Total. Et Total est devenue, grâce à ce travail, la compagnie la plus haïe de l'Hexagone, en tout cas.
Alors, c'est vrai qu'Alain, en fait, a fait un travail extrêmement sérieux depuis l'origine de cette entreprise, depuis sa création au début du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, pour montrer à quel point, effectivement, elle avait su, en particulier, utiliser le droit pour corrompre, coloniser, pour s'accaparer des richesses, en particulier dans les pays du Sud. C'est d'abord un travail de philosophe, ce livre. Et je rends hommage à Alain pour avoir justement utilisé finalement le cas Total comme un cas emblématique de la manière dont certaines multinationales peuvent se comporter pour satisfaire avant tout et en premier lieu leurs actionnaires.
Leurs actionnaires, parce que Total, son premier but, c'est les actionnaires, c'est pas autre chose. Et c'est le capitalisme de connivence, à la française.
Absolument.
Voilà. Bien. Donc, on peut l'avoir en brochet.
En poche.
Et en poche, dans l'éco-poche. Donc, il faut savoir qu'en fait, de quoi Total est-elle la somme ? C'est un livre, et il y a le totalitarisme pervers.
Le totalitarisme pervers, qui est effectivement l'émanation, on peut le dire, le prolongement de quoi Total est-elle la somme, dans lequel Alain revient en 2018, donc un an après la publication de quoi Total est-elle la somme, sur finalement les fondamentaux philosophiques qui expliquent le développement de ce qu'il intitule à juste titre un totalitarisme pervers, l'utilisation effectivement de moyens juridiques et politiques contestables pour parvenir à enrichir ses actionnaires.
En tout cas, merci à toi d'avoir publié cet ouvrage qui était un tournant majeur, parce que je crois que jusqu'à ce qu'on le lise, beaucoup de gens m'avaient expliqué qu'ils avaient lu Noir silence aux arènes de François-Xavier Verschave. Ils avaient lu des extraits sur Total, mais ils n'avaient pas lu Total en tant que tel. Et le travail d'Alain permet de comprendre en profondeur les multinationales. Et depuis, il y a un observatoire des multinationales qui continue ce travail d'appréhender le pouvoir des multinationales et de nous donner des outils pour arriver à ce qu'elles soient démantelées. Parce qu'elles ont un pouvoir beaucoup plus fort que les États, et c'est un problème politique.
Absolument. D'ailleurs, je signale au passage qu'on a publié également une grande enquête d'Olivier Van Bemmen, qui s'intitule « Heineken en Afrique », et qui, là aussi, vient jeter un regard très documenté sur les pratiques de cette autre multinationale, Empire Brassicole, qui profite en particulier de ses relations avec certains pouvoirs corrompus en Afrique, qui profite de réglementations parfois un peu lâches sur le plan sanitaire dans les 14 pays où Olivier a mené son enquête pour y obtenir une rentabilité
exceptionnelle,
qui est la plus importante de tous les continents dans lesquels Heineken est présent. Voilà, c'est un livre qu'on a publié en 2018 et qui est également disponible dans notre collection de poche depuis 2021.
Voilà. Alors, Thomas, si tu le veux bien, on va faire une pause et on va revenir plus précisément sur certains ouvrages en deuxième partie et sur Débordé Bolloré.
Dieu que cette histoire finit mal. On n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé.
De la rage dedans, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission avec Thomas Bou. Thomas, éditeur indépendant, est-ce que c'est compliqué dans le paysage actuel ou est-ce que c'est très très compliqué parce qu'on est dans une période économique spéciale, pour ne pas dire affreuse, et les matières premières ont augmenté drastiquement et les gens ont de moins en moins un pouvoir d'achat de plus en plus réduit.
Alors pour reboucler avec ce que je disais au début de l'entretien, c'est d'abord une grande joie et un grand plaisir d'être un éditeur indépendant. Je sais à quel point, quand on travaille pour des grands groupes financiarisés, on est souvent asservi à des contraintes qui sont celles de la rentabilité économique. Aujourd'hui, je ne publie, j'ai cette chance, c'est mon seul luxe peut-être, de ne publier que des livres auxquels je crois et qui correspondent à des valeurs que j'ai envie de défendre. Donc c'est d'abord un premier point. Après, sur le plan économique, évidemment que c'est compliqué pour des raisons structurelles d'abord, que tu as mentionnées, mais on peut les développer quelque peu. Depuis quelques années, en France, le pouvoir d'achat objectif des uns et des autres a considérablement baissé parce que quand on prend 20% d'inflation sur l'alimentaire, sur le logement, comme ça a été le cas en 3 ou 4 ans, c'est compliqué de conserver un budget pour ce qu'on appelle globalement les produits culturels, dont le livre. Donc il y a effectivement ce phénomène. Il y a aussi la question du renchérissement que tu as évoqué des matières premières. Entre 2021 et 2022, le papier graphique a pris 100% d'inflation. Ce qui signifie que pour nous autres éditeurs, et ça concerne l'ensemble du métier, on a perdu sur des marges sans pouvoir obligatoirement réajuster nos prix de vente en fonction de cette inflation, puisqu'on ne peut pas dépasser objectivement certains plafonds symboliques en matière de prix. Il y a aussi un autre phénomène qui est la concurrence massive des écrans, du numérique, avec une érosion des habitudes de lecture. Cette année, le CNL, le Centre National du Livre, a sorti une enquête qui établit qu'aujourd'hui, moins d'un Français sur deux lit au moins un livre par an. On est à 48% de Français qui lisent au moins un livre par an. Et si on considère les habitudes des plus jeunes, les 11-19 ans, de mémoire, on est sur un temps de lecture quotidien de 11 minutes, tout support confondu. Et si on enlève les jeunes filles de cette tranche d'âge, alors là, on est encore plus dans l'effondrement.
Oui.
Donc voilà, il y a quand même aussi cette réalité, ces réalités structurelles avec lesquelles il faut qu'on fasse. Et en tant qu'éditeur indépendant, je pense effectivement qu'on a sans aucun doute une difficulté supplémentaire qui est liée à l'extrême concentration du monde du livre. Aujourd'hui, c'est un ordre de grandeur à quelques unités près, quatre grands groupes produisent 80% de la production éditoriale française et réalisent 90% du chiffre d'affaires global de ce secteur, puisque ils détiennent souvent aussi les outils de diffusion distribution et les réseaux de distribution. Au sein de ces quatre grands acteurs, il convient évidemment d'évoquer en particulier le groupe Bolloré, qui via Hachette aujourd'hui n'est pas simplement un acteur économique, mais aussi un acteur idéologique. On voit ce qu'est par exemple devenu la maison d'édition Fayard.
Ah,
et
oui,
j'imagine que Claude Durand se retourne dans sa tombe actuellement quand il voit que Ciotti, Bardella, De Villiers sont devenus les meilleures ventes de cette maison.
Alors, on rassure, il y a une réaction des indépendants dans le collectif Débordé Bolloré.
Alors, absolument. Donc, en fait, c'est vrai que il y a cet effet de concentration qui a une incidence très forte sur, en particulier, notre capacité à finalement promouvoir nos livres. On n'a pas la force de frappe financière en tant qu'indépendant de grands groupes qui s'appuient finalement d'abord sur des richesses qui ne proviennent pas du monde des médias, mais de fortunes amassées, d'un capital amassé par d'autres activités. Chacun sait que Bolloré a fait fortune dans le transport maritime en Afrique en particulier et dans d'autres secteurs.
Sur le dos des Africains.
Donc, on voit bien que là, il y a quand même effectivement deux poids, deux mesures. On boxe malheureusement pas dans la même catégorie. La bonne nouvelle, en fait, ou la conséquence de cette situation, c'est la nécessité dans laquelle on se retrouve de faire preuve au quotidien de créativité et de ne publier, par exemple, que des livres que l'on croit, qu'on a la conviction de penser uniques dans leurs propos, dans leurs propositions, qu'elles soient effectivement un essai ou un roman ou une bande dessinée. Il y a aussi la nécessité dans laquelle on se retrouve finalement de coopérer entre éditeurs indépendants et de monter ensemble des projets qui favorisent en particulier notre proximité d'avec les libraires, les bibliothécaires, tous ces maillons très solides qui, en France, grâce à la loi sur le prix unique du livre également, nous permettent de résister finalement à cette hégémonie. Merci.
Alors, Débordé Bolloré, du coup, on en vient directement à Débordé Bolloré. Tu étais à la soirée de lancement de Débordé Bolloré, donc du coup, je t'ai alpagué pour te dire, ce serait bien que tu viennes dans mon émission.
C'est vrai, ça s'est passé comme ça.
Voilà, donc tu n'as pas su dire non, comme beaucoup de...
C'est un plaisir d'être là, Mariama.
Merci, c'est gentil. Et en plus, il est adorable. Alors, Débordé Bolloré, qu'est-ce que tu peux en dire en trois mots ta participation, ton impact?
Alors, en trois mots, je dois d'abord dire que Débordé Bolloré est une initiative effectivement d'éditeurs indépendants. C'est un livre qui rassemble des contributions de différents professionnels du secteur, de chercheurs, de libraires, d'éditeurs, pour montrer à quel point effectivement aujourd'hui Bolloré constitue une menace très forte pour la liberté de penser et de diffuser autre chose que des messages d'extrême droite, pour être très clair. C'est un collectif d'éditeurs, une centaine, qui ont décidé effectivement de coéditer en finançant ensemble la réalisation et la fabrication de ce livre. Un ouvrage qui permet effectivement de marquer d'une pierre blanche notre volonté, notre ambition de résister. Alors la part que Rue de l'Échiquier a prise dans cette affaire est extrêmement modeste, puisque nous avons en fait commandé des ouvrages pour en assurer la diffusion, mais ça s'est malheureusement arrêté là, parce que voilà, on mène des combats associatifs aussi en parallèle à Rue de l'Échiquier, qui nous occupe beaucoup, mais on est très fiers et très heureux de pouvoir prendre part à cette aventure. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un combat absolument indispensable à mener.
Alors, on avait reçu deux de tes confrères de Débordés Bolloré. Donc, l'émission est sur le podcast du groupe Louise Michel. Donc, si vous voulez l'écouter ou la réécouter, il n'y a pas de souci. Donc, Débordés Bolloré, une fois... Stéphane Hessel, deux fois.
Qu'est-ce que tu veux dire par Stéphane Hessel, deux fois?
Alors, Stéphane Hessel, tu es son éditeur.
Je suis son nouvel éditeur,
son nouvel éditeur, mais avec une nouvelle préface d'une star.
Oui, en fait, c'est une belle aventure, ça aussi, et je parlais de coopération à un instant. On a été sollicité par Jean-Pierre Barou et Sylvie Crossman durant l'été 2023 pour reprendre leur maison d'édition, les éditions indigènes qui existaient depuis 1997. Jean-Pierre et Sylvie s'étaient beaucoup employés durant leur carrière d'éditeur à mettre en avant en particulier les cultures autochtones, en particulier voilà, toute une série effectivement de livres traitant de manière approfondie de ces cultures, et ils ont été particulièrement exposés en 2010 avec la publication de ce petit manifeste « Indignez-vous » de Stéphane Hessel, qui s'est vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde. Et en fait, donc Jean-Pierre et Sylvie avaient... le sentiment que l'heure était venue pour eux de passer le relais, de prendre leur retraite.
Et ils t'ont choisi.
Et ils m'ont effectivement identifié comme étant...
Quel honneur,
comme étant un éditeur susceptible de poursuivre finalement l'aventure des éditions indigènes sous une autre forme, en reprenant un certain nombre d'ouvrages de leur fond, mais aussi, et c'est ce que je leur ai proposé, en ouvrant au sein du catalogue Rue d'Échiquier une collection, la collection indigène, dans laquelle non seulement on pourrait republier certains titres donc du fond, dont Indignez-vous, mais aussi des inédits apportés par Jean-Pierre et Sylvie. Donc ça a été tout de suite une très belle rencontre. On a mis un an à aboutir à la reprise, on va dire, officielle de leur maison, de leur marque. Et aujourd'hui, donc, on lance avec eux, en fait, on a lancé en cette rentrée 2025 la collection indigène avec le titre Locomotive, si je puis dire, que constitue la réédition d'Indignez-vous, avec effectivement une préface d'une jeune journaliste que beaucoup de tes auditeurs et auditrices doivent connaître, à savoir Salomé Sacquet.
Oh oui, Résister.
Voilà, qui est l'autrice de Résister, qui est sortie en octobre 2024, qui en est à 350 000 exemplaires vendus.
Plus que Bardella.
Plus que Bardella, heureusement. Et qui, effectivement, est une sorte, finalement, de suite logique à Indignez-vous. Et ce qui est amusant, c'est pour ça qu'on a d'ailleurs sollicité Salomé pour l'écriture de cette préface, c'est qu'elle a lu Indignez-vous quand elle avait 15 ans au moment de sa sortie, et elle dit dans sa préface à quel point la lecture de ce livre a orienté sa carrière professionnelle, lui a donné finalement l'impulsion pour devenir cette journaliste engagée, en particulier au micro de Blast. Et donc il y avait une logique absolue à la faire figurer au casting de cette nouvelle édition.
Mais oui, et c'est un petit bijou.
C'est un petit bijou aussi bien par le texte de Stéphane, qui reste d'une actualité stupéfiante parce qu'il aborde des questions qui nous concernent tous, les inégalités sociales, le racisme, Gaza déjà, et évidemment petit bijou par le fait que Salomé donne toute l'actualité du propos de Stéphane Hessel dans sa préface.
Voilà.
Et le livre est sorti en août de cette année et on en est déjà à 30 000 exemplaires imprimés, ce qui est plutôt bon signe.
Ben écoute, on en est ravis pour toi. Alors, tu sors un livre dont tu viens de me parler, qui est ceux de Lutetia.
Alors, effectivement, donc, j'évoquais les inédits à venir ou déjà parus au sein de cette collection indigène. On a d'abord en septembre de cette année 2025 publié Un orage de mots de Sharla Shafik sur la révolution iranienne Femme, vie, liberté, dans lequel Sharla, qui est une écrivaine iranienne réfugiée en France depuis 4 décennies, a réuni des propos, des poèmes, des slogans imaginés par ces jeunes gens iraniens et iraniennes qui, depuis maintenant, donc la mort
de Mossadegh,
la mort de Mahsa Amini en particulier, a imaginé, ont justement proposé ont fait preuve d'un courage incroyable en défendant cette révolution et effectivement donc tu évoquais un deuxième titre, ceux du Lutetia, qui consiste en des propos recueillis par Jean-Patrick Razon, qui est un ethnologue et qui pendant plusieurs années a déjeuné régulièrement avec plusieurs anciens et anciennes déportés, dont Ginette Colaca, Marceline Loridan-Ivens, Armand Bulva, qui nous a quittés d'ailleurs il y a quelques semaines, et les a fait réagir sur toute une série de mots qui vont de amour à Caen, en passant, toutes sortes de mots, et il les a fait réagir sur ces mots-là pour recueillir leurs témoignages. Et ça donne un ensemble extrêmement émouvant, parce qu'évidemment, le souvenir de leur déportation durant la Deuxième Guerre mondiale les occupe encore beaucoup. Et ce sont des témoignages très très bruts de ce qu'a été cette histoire. Et en fait, ça s'appelle ceux du Lutetia parce qu'ils se sont retrouvés dans cet hôtel qui, au sortir de la guerre en 1945, au moment de la libération des camps, a été un point de refuge et de retrouvailles avec leur famille pour beaucoup de déportés. C'est vraiment un court texte, mais extrêmement fort, qu'on vient donc de publier, qui est apparu fin octobre.
Bien. Alors, tu m'as apporté 3 ouvrages et je ne résiste pas au premier d'entre eux, Dans les beaux quartiers, préface d'Éric Vuillard. Dans L'éco-poche, Michel Pinson qui nous a quittés l'année dernière et sa femme Monique Pinson-Charlot.
Oui, alors on est très fiers, je dois dire, d'accueillir ce couple de sociologues dans notre catalogue, d'autant plus que Dans les beaux quartiers, que tu viens de citer, est le premier livre que Monique et Michel ont publié ensemble. C'est une enquête absolument incroyable, édifiante, sur la manière dont ce qu'on appelle aujourd'hui les ultra-riches, la classe, la grande bourgeoisie française, cultive un entre-soi dans des quartiers, effectivement, de la périphérie parisienne et dans Paris. C'est un livre extrêmement concret. En fait, à l'époque, Monique et Michel ont mené des entretiens avec des représentants et des représentantes de cette haute bourgeoisie, et c'est vraiment un livre fondateur sur l'analyse justement de cet entre-soi et sur la manière surtout de maintenir cet entre-soi. Et on a bénéficié effectivement, grâce à notre coéditeur Les Voies urbaines, d'une préface d'Éric Vuillard, qui est un auteur bien connu, prix Goncourt, qui a une sensibilité particulière pour ces questions. Et donc, on est très heureux de republier ce livre qui n'était plus disponible depuis de très longues années au sein de notre collection Les Copoches.
D'accord. Alors, deuxième livre que tu m'as apporté, de Sophie Lemaître, « Réduire au silence ». Comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG. Ça, c'est un... Ça, c'est du lourd.
Ah, c'est du lourd. Et c'est vrai qu'il s'inscrit dans le prolongement de sujets qu'on a déjà évoqués durant cet entretien. J'ai évoqué Noir Canada tout à l'heure, qui a valu à son auteur une procédure bâillon. Mais tout ça remonte aux années 2000. Réduire au silence, donc, de Sophie Lemaître, qui est une juriste qui a beaucoup travaillé pour l'association Sherpa, qui a été membre du conseil de surveillance d'Anticorps, a justement porté un regard sur la façon dont finalement le droit aujourd'hui peut être utilisé comme un moyen de faire taire les lanceurs d'alerte, qu'il s'agisse de journalistes, d'ONG, de militants, par toutes sortes de truchements qu'elle documente avec énormément de précision. Elle donne beaucoup d'exemples dans ce livre remarquable, je dois dire. Et c'est vrai que pèsent sur notre démocratie des menaces considérables par le fait que les puissants aujourd'hui, en utilisant finalement leurs ressources financières, peuvent multiplier les procédures pour empêcher ceux qui dénoncent des scandales, et ce, dans une logique évidemment d'intérêt public. Et voilà, et c'est vraiment un essai tout à fait passionnant.
Alors, il y a une collection que tu as lancée, Les Incisives, et tu m'as permis de recevoir une femme remarquable, une avocate, Marianne Leloup d'Assonville. Émission que vous pouvez réécouter en podcast. Les Incisives, pourquoi Les Incisives?
Alors ça, c'est une collection que nous avons eu l'idée de monter avec Vincent Hédin, qui est toujours directeur de cette collection, qui est un agitateur d'idées, un journaliste, un professeur de rhétorique, quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc. L'idée, en fait, que nous avons eue ensemble, c'était de proposer en 2018-2019, la création d'une collection de livres qui, comme le dit Vincent, ne s'excuserait pas, proposerait sur des sujets d'actualité un regard incisif, d'où le nom de la collection. Et on en est à 16 ou 17 titres désormais publiés. De Ne plus se mentir, de Jean-Marc Gansil, qui fait le point sur l'effondrement écologique, a effectivement plus récemment...
France Terre d'écueil.
France Terre d'écueil, de Marianne Leloup d'Assonville, qui revient sur la façon dont l'administration française fait subir aux migrants des conditions absolument terribles, une maltraitance administrative, absolument.
Tout à fait. Alors, dernier livre, tu as tenu à me dire que Rue de l'Échiquier fait de la fiction.
C'est vrai. Comme je te le disais avec Écotopia, depuis maintenant 7 ans, grâce à Mathieu Riva, qui est directeur de ce domaine, on publie à peu près 3 romans par an. Et l'un des derniers que je te donne aujourd'hui...
Les colonies intérieures.
Les colonies intérieures de Denis Lemasson, qui est une plongée dans l'histoire d'un territoire souvent mal aimé, à savoir la Seine-Saint-Denis. C'est un livre qui revient sur finalement les cicatrices de ce territoire, sur en particulier le poids de certains souvenirs des populations qui continuent d'y habiter. Je pense à la guerre d'Algérie qui a eu un impact extrêmement fort. Voilà. Et en fait, c'est un roman noir, social, qui raconte l'histoire d'un jeune couple qui se retrouve en fait embarqué dans une histoire, on va dire, plus grande qu'eux, liée à des affaires de corruption politique, mais aussi à justement une mémoire trop oubliée sur ce qui fait la richesse aussi et la force de ce département de Seine-Saint-Denis.
Bien. Thomas, je te remercie.
Je t'en prie.
Alors, je voudrais que tu rappelles l'adresse du site internet de ta maison.
Rue de l'échiquier.net.
Voilà, où on peut commander les ouvrages. Et on peut les retrouver, surtout je pense, au BD Intraitable, à Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf. Voilà. Donc, mais dans toutes les bonnes librairies, on a les rues de l'échiquier.
Bien sûr, dans toutes les librairies indépendantes.
Oui. Merci de le rappeler. Merci à Ken Dong pour la technique de cette émission. Merci à Thomas.
Merci.
Bonne continuation. Et bonne continuation à tous tes auteurs et autrices. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, faites attention à vous et portez-vous bien. Merci.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents, sur vos roues, j'ai fait la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, c'est dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas. La rage, je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. La rage, bah, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin, j'étais blessé chez mon voisin. La rage, mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve, prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve. La rage. La rage.
La rage. 17h25 sur Radio Libertaire, à 17h30 dans 5 minutes donc, rendez-vous avec Radio Esperanto. En attendant, on écoute Léon, extrait de son album Tenir le coup, ça s'appelle Maa Janga Blues.
Cette terre, de pays différents, l'un est une puissance, l'autre est une fourmi, l'un attend patiemment ce moment important pour unique défense, critère de mon. Je dois le dire, cela existe vraiment. Quelque part une ville, quelque part une île, au milieu d'un continent. On y vit les folies. En ce territoire, on vit l'histoire. C'est un tout choquant. Dans ce monde tout petit, paysage converti, entouré d'un regard. une vie.
Vous l'avez rectifié de vous-même, la chanson était intitulée « Je dois le dire ». C'était Léon sur Radio Libertaire. Et tout de suite, on retrouve l'équipe de Radio Espéranto.
Son negociam, ot veninta del cor, porque canto la flor, flor de l'am, intervinter ni esperam. Di la cin venuce mi, aura grec, aura franz, caie canto cun mi, persa ma voce, ed iranta del cor, esperam.
Esperanto. Ah. Ah. Arbo. Bo. Bo. Boto. Cioccolato. Do. Do. Dento. E. E.
Yo, yes, yo, yo. citronne.
Radio
Saluton al ĉiuj.
Saluton.
Saluton al la aŭskultantoj.
Yes. Radio Esperanto.
Radio Esperanto, yes, prezentu tamen.
Yes, prezentita jam de Serge.
Ah, yes, do.
Saluton.
Ankaŭ saluton Serge.
Saluton Serge, kaj dankon al Serge.
Yes, teknikumas.
Yes, yes, kiu teknikumas por ni, yes.
Yes, yes, yes.
Ni vere dankestin.
Do ĉiu vendredi, Radio Esperanto.
Ĉiu vendredi, yes.
Je la fino de la tago.
Dek sep kaj duono ĝis la deknaŭa.
Deknaŭa, yes. La sidejo de Radio.